Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Eric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à un second programme spécial sur la finale de la Coupe du Monde de football.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender.
Quelques 5 millions de personnes sont descendues dans les rues de Buenos Aires pour saluer l'équipe nationale argentine après avoir remporté la Coupe du Monde au Qatar. Des milliers de fans se sont rassemblés autour de l'obélisque, emblème de la capitale, sur l'avenue 9 de Julio. Il s'agit du rassemblement le plus massif de l'histoire du pays et les images de la ville inondée de monde par une journée ensoleillée, le dernier jour du printemps, font encore le tour du monde. Dans un bus à toit ouvert, les champions du monde ont salué une foule immense qu'ils attendaient sur l'autoroute qui relie Buenos Aires à la banlieue ouest. En 4 heures, la caravane n'a parcouru que 15 km en raison de l'immense quantité de personnes entassées sur la route. Et compte tenu de la présence croissante de fans, il a été décidé d'annuler le voyage terrestre et de le conclure en hélicoptère. Pour parler de cette finale dramatique Argentine-France, j'ai consulté une Française vivant en Argentine et un Argentin vivant en France. Pour commencer, le témoignage de Sophie Weber qui tient le resto-concert à l'Escenario dans le quartier de La Boca.
Ce fut un match magnifique, épique, qui aurait pu être dramatique, à l'image du tango, à l'image de ce pays et de son peuple qui souffre. Je suis très heureuse pour l'Argentine, mon pays d'adoption, qui m'a tant donné. Une victoire que je savoure avec eux sans oublier la France. Quoi qu'il arrivait, la victoire restait dans la famille. Mais l'Argentine méritait le titre tant pour son équipe que pour les valeurs qu'elle représente, qui sont les valeurs de tout le peuple argentin. Émotion, amour, famille, amitié, résilience, acceptation de la douleur, la joie de vivre, d'être en vie quoi qu'il arrive, ce sont les valeurs de l'Argentine, ce sont les valeurs de cette équipe. J'applaudis l'équipe argentine pour ce triomphe, sa persévérance et ses efforts. Un exemple pour le sport qui fomente l'unité du peuple argentin dont il a tant besoin. L'Argentine, en quelque sorte, c'est vraiment l'image de cette équipe. Une image passionnée, fougueuse, généreuse. C'est le tango, c'est le football, c'est l'Argentine. Hasta morir. Serait-il possible qu'enfin l'histoire donne raison à ceux qui souffrent et à ceux qui luttent? C'est un petit peu ce que je retiens de ce mondial où les deux équipes ont été formidables. Mais j'ai envie de dire en argentin, en espagnol, gracias a la vida. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Depuis la banlieue parisienne, place aux souvenirs et aux témoignages de Michel Land, qui habite l'Hexagone depuis sa sortie après 7 ans et demi comme prisonnier politique en Argentine sous la dictature de 1976 à 1983.
Bonjour, je suis Michel Land, né à Mundo, Buenos Aires, quartier nord de Buenos Aires, en 1955. Mon père était basque-français. Il est arrivé à Buenos Aires, en Argentine, en 1936. C'est-à-dire que les confrontations dans n'importe quel niveau sportif France-Argentine avaient une saveur spéciale chez nous depuis toujours. Mon père était d'abord pour la France et après pour l'Argentine. Et ma mère argentine et nous quatre, mon frère, mes deux sœurs et moi, à l'inverse, on était toujours pour l'Argentine et pour la France après. Pour les matchs Argentine-France, il y en a eu très peu dans les mondiaux. Le premier, ça a été en 1978. La famille était séparée. Moi, je l'ai vécu derrière les barreaux parce que j'étais prisonnier politique sous la dictature. Et toute ma famille était ici en France. Bon, j'ai pu le suivre par les coupures de journal qui nous arrivaient. La seule chose qui nous arrivait, c'était la partie sportive et la partie spectacle. Alors je connais le pénalty de Trésor que certains Français, là où je jouais jusqu'à il y a 4 ans au foot, ici dans un village près de chez moi à Crécy-la-Chapelle, dans le vestiaire, on me le sortait encore, le pénalty injuste qu'on a sifflé à Trésor. Mais bon, l'Argentine, cette fois-ci, a gagné 2-1. Et bon, c'était très particulier parce que dedans, en prison, on le vivait. Bon, tout le monde supportait l'Argentine, bien sûr, mais bon, c'était des moments très, très spéciaux. Une anecdote, des fois qu'on nous laissait sortir et qu'on avait un ballon, on improvisait des matchs. Et moi, je ne connaissais rien des joueurs français, mais dans la liste, j'avais vu Rocheteau. Et quand je prenais le ballon, je me renommais toujours « Apprends Rocheteau, attention, ta-ta-ta ». Et bon, une fois, j'ai pu me le croiser là dans le club où je jouais ici à Crécy-la-Chapelle. J'ai pu le croiser Rocheteau et lui remercier parce que lui et un autre, que je ne me rappelle pas le nom, ont été les deux seuls qui ont demandé pour les disparus. Et pour les prisonniers, quand ils sont allés en 78, ils sont allés à l'ambassade et ils ont demandé pour nous. Bon, ça c'était 78. Après, il n'y a pas eu d'Argentine-France jusqu'à 2018. Heureusement, je ne jouais plus au foot. Alors, j'ai économisé tout le chambrage de mes copains de foot. Et j'ai eu quelques chambrages des collègues de bureau. Mais bon, il faut dire qu'ici, ils chambrent beaucoup moins. Les Argentins, on est plus insupportables quand on commence à chambrer. En 2018, bon, déjà, j'avais ma famille ici, ma femme française, mes deux enfants, ma fille et mon fils, qui ont des petits, ils ont toujours supporté l'Argentine au foot. Alors on était en 2018 où la France a gagné 4-3 et presque l'Argentine égalise à la dernière minute. J'étais avec un ami de toute ma vie en train de le voir. Et là, bon, à partir de là, on a décidé, parce que nous on est beaucoup dans la superstition, dans le football, alors on s'est décidé de pas regarder les matchs ensemble après. C'est-à-dire qu'en 2022, malgré les envies, on n'a pas partagé avec ce copain, avec cet ami, des matchs. Par contre, je les ai partagés avec ma famille de nouveau. C'était assez sacré, chaque match. Chacun avec ses porte-bonheurs. Ma fille avec les tennis de telle couleur, toujours les mêmes. Mon fils avec le maillot. Moi, j'étais parti à la retraite en septembre, on m'avait offert un maillot de l'Argentine, je l'ai mis le premier match, mais comme ils ont perdu, je ne l'ai plus mis et je me mettais d'autres choses. Et bon, toujours une ambiance très sympa et on a souffert comme des malades, mais on est champion. Le foot ici, on le vit d'une façon... J'ai été élevé dans un quartier où le foot, c'est comme en tout, partout en Argentine, le foot est une religion. Un écrivain espagnol dit que c'est le seul sport qui nous permet de revenir en enfance tous les week-ends. Et bon, pour moi, c'est ça, c'est revenir à mon quartier, me rappeler des matchs interminables dans la rue ou dans les terrains vagues. C'est partager avec mes enfants toute cette passion qu'on a pour le foot. Et bon, c'était très, très, très chouette partager avec mes enfants, mon petit-fils de 3 ans et demi qui connaît déjà l'hymne national argentin et qui commence à chanter Muchachos et toutes les autres chansons. Et dans des moments comme ça, de beaucoup d'euphorie et de joie, bon, bien sûr, on sait que c'est éphémère, que les problèmes en Argentine, il y a des choses beaucoup plus graves, que l'inflation est là, qu'il y a plein de choses. Mais on sait qu'on va partager cette joie et que c'est très chouette. Ma femme qui est française, là le dernier match, elle a été pour la France 10 minutes, mais après elle a supporté l'Argentine en voyant notre passion et nos cris. C'est ça qui apporte le foot, ces moments de joie, ces moments de partage. Et moi, quand je passe des moments comme ça, je ne peux pas oublier les 30 000, parce que c'est une génération que les militaires ont fauchée, la plupart très très jeunes, et qu'ils n'ont pas eu la possibilité de voir ces petites joies populaires qui sont si importantes. Et bon, se rappeler d'eux, c'est partager avec eux un peu cette joie très grande qu'on a eue dimanche. Bon, c'est ce que je peux témoigner comme un Argentin qui vit en France depuis plus de 30 ans maintenant.
Quelques heures après la finale, Radio Foot International a débattu à fond sur le résultat et les performances des deux équipes. Non, sans polémique.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International pour parler, évidemment, de la Coupe du Monde. Vous le voyez derrière moi, des Argentins champions du monde, les Français détrônés, ils ne sont plus que vice-champions du monde. Hier soir, au terme d'une finale épique, l'équipe emmenée par Lionel Messi a décroché une nouvelle étoile, une Coupe du Monde en route vers Buenos Aires, où la population est en fête depuis le coup de sifflet final. Encore un titre, encore un trophée pour Lionel Messi, sacré pour son dernier mondial. L'autre joueur star de ce sport, Kylian Mbappé, a créé l'exploit en inscrivant un triplé. Mais ça n'a pas suffi pour lui offrir la coupe. Kylian, un roi sans couronne, défait comme ses partenaires et comme Didier Deschamps, le sélectionneur. Dans ce studio aujourd'hui, un champion du monde, il est là. On l'a ramené rien pour vous. On n'a pas ramené la coupe, mais on a ramené Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Vous rayonnez comme le soleil du drapeau argentin.
Oui. Bah voilà.
Il a rajeuni, il a beaucoup rajeuni.
C'était une belle soirée.
Bon, il est tout sourire Alejandro. J'imagine que toute votre famille, votre fils notamment, était content aussi. À vos côtés. Il vous a rendu honneur, hein, parce que lui, il a le maillot des champions du monde, mais il n'y a pas d'étoile encore. Bon.
Bonjour Annie, bonjour, bonjour à tous, c'est sur l'honneur de notre maître à tous, hein, sinon je serais pour l'équipe de France, évidemment.
En face, eh bien, deux qui devaient être pour l'équipe de France peut-être. Alors ouais, bonjour Philippe Doucet.
Quand même, oui.
Et puis bonjour Hervé
Benoît.
Mais
quel plaisir d'être en votre compagnie, enfin vous savez, Argentine, France, l'important c'est qu'on a vécu un grand moment.
Radio Foot, c'est parti. Un sacre mondial et une joie immense pour toute une nation, la nation argentine, une satisfaction aussi pour tous ceux qui admirent depuis longtemps la Pulga, qui admirent depuis longtemps Lionel Messi, l'homme aux 7 ballons d'or. Les Argentins ont fêté leur 3e étoile dans Buenos Aires, sur la fameuse et large avenue, dite la plus large du monde, la Nueve de Julio, l'avenue du 9 juillet, au pied de leur obélisque. Mais il y avait aussi des Argentins, Alejandro, hier soir, je ne sais pas si vous y étiez, au pied de notre obélisque sur la place de la Concorde, dans Paris.
Ils sont trompés, peut-être.
Je n'y étais pas, mais ça ne m'étonne pas beaucoup.
Ouais, bah, ils sont dit, au lieu d'aller sur les Champs-Élysées, quand même, par bravade, on va quand même aller trouver un obélisque, et il l'avait trouvé. L'Argentine a donc gagné la finale. 36 ans d'attente, 36 ans depuis qu'elle avait remporté ce trophée. C'était donc en 1986, des mains, si je peux me permettre, de Maradona. Un soulagement donc, après avoir mal commencé la compétition, après cette défaite face à l'Arabie Saoudite. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a changé le destin de cette sélection. Alejandro, qu'est-ce que vous diriez d'abord sur ce titre et sur sans doute la joie qu'elle a dû provoquer dans le cœur des Argentins.
Mais je pense que c'est un titre qui me paraît mérité, parce que l'Argentine, quand même, après cette défaite initiale contre l'Arabie Saoudite, qui finalement s'est révélée probablement bénéfique, car ça a permis à Lionel Scaloni de bouger un peu son équipe et de titulariser des joueurs qui n'étaient pas prévus au départ, bah l'Argentine n'a jamais été menée au score, même pas une minute, depuis... Depuis ce match-là, il a toujours été à égalité ou à l'avantage. Donc, c'est une équipe qui a construit sa victoire sur une organisation défensive quand même très solide et sur des, quand même beaucoup de talents offensifs avec des jeunes qui se sont révélés comme Enzo Fernandez, comme Julian Alvarez et puis évidemment avec un Lionel Messi qui à 35 ans reste quand même un peu la pierre angulaire de cette équipe, le centre de cette équipe et qui a été exceptionnel du début jusqu'à la fin.
Chéris Guémour, l'Argentine, ça faisait longtemps qu'elle attendait ce titre. Elle était passée si près, déjà avec Messi, en 2014, au Maracana, au Brésil. Est-ce que cette équipe vous paraissait plus préparée qu'en 2014 ?
J'avais des doutes qui se sont confirmés après le premier match où l'équipe n'était pas encore réglée. En fait, c'était des réglages, en fait. Et progressivement, c'est une équipe qui est montée en puissance. Comme l'a dit Alejandro, il y a des joueurs qui sont rentrés, qui ont tenu leur rôle. Et qui a pris de l'assurance dans le jeu, notamment. On pense que c'est une équipe défensive, pas du tout, en fait. Ils ont beaucoup attaqué, il y avait un vrai jeu de possession. Et on l'a vu, l'une des causes, à mon avis, de l'apathie de l'équipe de France, c'est tout simplement qu'ils ont été submergés par le jeu d'équipe d'Argentine, qui se trouvait parfaitement. Il y avait une circulation.
Par le jeu ou par l'émotion ?
Et par le pressing aussi.
Par le pressing aussi, évidemment. Et puis par la justesse et le charisme de Messi. Quand Messi prend le ballon, il ne le perd jamais. Et il oriente toujours comme
il le faut. Autant par l'émotion, à mon avis, que par le pressing. Hein. Parce qu'on a quand même senti une équipe de France, dès le départ, qui était totalement tétanisée. Parce que quand des joueurs, même sans pressing, ne sont pas capables de se faire des passes à 2 mètres, là, il y a quelque chose d'autre. Même à un moment, on se posait la question si ce n'était pas le virus, le fameux virus qui avait touché l'équipe, qui ne les avait pas impactés, jusqu'au point de ne plus être capable de faire ne serait-ce que 2 passes.
Hervé, donc, sur l'Argentine, est-ce qu'elle vous a impressionné tout au long de la compétition ? Vous étiez au Qatar, hein, vous êtes resté un bon moment, on s'y était croisés là-bas. Mais est-ce que dès le départ, je me souviens que notre invité d'un des plateaux de Doha était notre confrère Hafid Djabali de la chaîne Bein Sport hein, en arabe. Et il avait, mais je me souviens très bien d'un revers de phrase dit « Mais l'Argentine, cette défaite, ça veut rien dire ». Vous y aviez cru aussi ?
Franchement, quand même, il ne faut pas se mentir. Perdre d'entrée contre l'Arabie Saoudite, on ne peut pas dire non plus. Bon, finalement, ça va être un mal pour un bien. Non, on se dit il y a des limites. Parce que même si l'Arabie Saoudite a fait 2 matchs énormes avant un peu de céder physiquement avec beaucoup de blessures, on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient ennuyer comme ça l'équipe de Lionel Messi. Alors, on se posait la question de savoir si finalement, ils étaient sur une longue série de matchs sans défaite, hein, 35, c'est ça. Et on s'était posé la question, finalement, est-ce qu'ils ont rencontré beaucoup d'adversaires ? Il y a eu le Brésil, c'est vraiment en finale de la Copa América, mais il y avait quand même pas mal de doutes qui commençaient à émerger. Et finalement, ils ont réussi à répondre présent. Mais au soir de la défaite, j'y étais, moi, ce match-là, contre l'Arabie Saoudite, même si, attention, ils ont quand même eu un paquet d'occasions, hein, faut pas l'oublier non plus. On se posait des questions sur l'avenir de cette Argentine-là et de Lionel Messi.
On les avait sentis émoussés dès le premier match. Moi, c'est ça qui m'avait mis les doutes. C'est, je me dis, mais physiquement, ils sont pas au taquet.
C'est une équipe comme l'équipe de France qui est arrivée avec beaucoup de joueurs blessés et ou en méforme.
Il y a pas mal de sélections.
N'avaient
pas de
préparation.
De,
déjà, Di Maria, des gars comme Paredes qui étaient des titulaires au départ. On sentait qu'ils n'étaient pas du tout.
Et c'est France 2018, hein, où tu rentres aussi la France 2018, pas par une défaite, mais tu rentres aussi en grosses difficultés. Et Didier Deschamps change pas tout, mais change beaucoup pour le deuxième match. Et là, Scaloni, il a redonné la chance à des jeunes.
Cette défaite lui a permis quand même de faire des choix forts qu'il n'aurait peut-être pas osé faire s'ils avaient gagné contre l'Arabie Saoudite, malgré ses difficultés.
Cette troisième étoile, c'est le triomphe du football argentin dans ce tournoi ?
Je crois que c'était plus que jamais un tournoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné ? En tout cas, c'est la meilleure équipe du moment. Sur le tournoi, une fois qu'ils ont avalé un match et demi très difficile, parce que la première période contre le Mexique aussi était très nerveuse, après on a senti une libération et l'équipe s'est vraiment exprimée, on la sentait habitée, c'était pas une grande équipe. Il n'y avait pas de grande équipe dans ce tournoi. Pour moi, il n'y avait aucune grande équipe.
Pas beaucoup de grands joueurs non plus.
Si, il y avait des grands joueurs dans le tournoi. Je parle dans le tournoi, d'accord. Il y avait des grands joueurs. Et dans l'équipe d'Argentine, il y a quand même des bons joueurs. Il y a un grand joueur et pas mal de bons joueurs. Mais ça ne faisait pas une équipe extraordinaire. D'ailleurs, la manière dont ils ont été remontés par l'équipe de France prouve que tout ça était très tangent. Ça ne se jouait pas à grand-chose.
Même les Pays-Bas.
Ils ont fait pareil contre l'Australie. Ils l'ont fait contre les Pays-Bas. Ils se sont fait remonter. Donc, ils étaient fragiles. Mais je trouve que l'état d'esprit qu'ils avaient était fantastique Et ils ont mis une telle énergie et finalement une certaine qualité au fur et à mesure du tournoi. Je crois à partir du troisième match, on a commencé à mettre un peu de qualité quand même.
Je te trouve dur quand même sur la qualité de l'équipe parce que je trouve qu'ils sont montés en puissance. À partir des matchs à élimination directe, on a senti quand même une équipe qui était costaud.
Le troisième match déjà contre la Pologne.
Ils ont une vraie identité de jeu.
C'est une grande équipe.
Non.
C'est une équipe qui a été la meilleure du tournoi. C'est déjà pas mal.
Alejandro, est-ce que c'est la Grinta qui les a fait gagner hier soir?
En partie, oui, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Enfin, il y avait quand même du jeu, et on l'a vu, quand même, l'équipe de France a été asphyxiée. Il y avait du pressing, il y avait des transitions quand même très rapides et qui permettaient quand même de... Il y a eu beaucoup d'occasions. Enfin, il y a eu des occasions pour l'équipe de France, mais il y a eu aussi beaucoup d'occasions pour l'équipe d'Argentine.
Il y a un gros gardien.
Voilà, exactement. Après... Et il n'y avait pas une grande profondeur de banc. On disait que ce n'est pas la plus grande équipe. Disons que sur les 26 joueurs argentins, je crois qu'il n'y en a que 5 qui vont jouer les 8e de finale des Ligues des Champions. Donc ce n'est pas énorme. Et c'est beaucoup moins que des équipes comme l'Allemagne ou comme la France ou le Portugal ou le Brésil.
C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions après cette première défaite. Mais moi, je trouve que cette montée en puissance était quand même assez étonnante. D'ailleurs, Scaloni, qui était là un peu, je ne dis pas par hasard, hein, mais disons que ce n'est pas celui qu'on attendait. On lui dit bon, il y a le poste. On va le prendre. Et puis lui, il a prouvé simplement qu'il savait gérer cet effectif. Mais en fait, gérer cet effectif, c'est Messi.
C'est gérer Messi.
Non, c'est pas et gérer. C'est Messi qui gère. Messi qui gère, et puis l'autre gère les autres. C'est-à-dire savoir. Mais ce que j'ai trouvé magnifique dans cette équipe-là, c'est la sensation qu'en fait, il ne jouait pas pour une équipe, mais il jouait pour un joueur. On a toujours eu cette sensation que c'était pour Lionel Messi.
Lui faire plaisir.
Ils étaient tous derrière Lionel Messi. Alors bien sûr que c'était l'Argentine, c'était leur maillot. Mais à côté de ça, il y avait ce côté. On a peut-être le meilleur joueur du monde de l'histoire du football. Après, on peut en discuter. Hein. À nos côtés, on veut lui offrir cette
victoire. Et puis, il y avait le gardien Emiliano Martinez, qui est aussi une grosse personnalité.
On a vu ça. Ça, ouais.
Et qui est très populaire.
Un peu vulgaire aussi.
Presque aussi populaire que Messi.
Pas chez nous, en tout cas.
On préfère la popularité de Messi.
En tout cas, cette finale, alors, quel adjectif mettre après le mot de finale de 2022? On a épique, bien sûr. On a aussi historique, exceptionnel. Titre Le Monde ce soir sur sa une. Une finale peut-être légendaire aussi, puisqu'on verra ce qu'en retiendra l'histoire. En tout cas, elle était à coup sûr spectaculaire. Mais qui a écrit ce scénario? Alors, un scénario de déglingo, aimait à dire hier Olivier Pron, hein, durant le match et aussi ce matin d'un rappel sur l'actualité. C'est vrai que c'était un scénario absolument incroyable. Je crois qu'on y a tous goûté. Et même les supporters français qui étaient dans le stade de Lusail, ce stade doré, ont apprécié le sursaut au micro d'Hugo Moissonnier.
Ouais, un peu abattu, ouais. Mais en même temps, match de légende.
Ce qui nous sauve dans ce match au niveau de l'émotion, c'est qu'on n'était clairement pas là en première mi-temps. Et vraiment, on a le droit à une prolongation qui va rentrer dans l'histoire. Et en ça, on est comblé.
On a tout donné. Et on était perdant à 2-0, on a remonté, on a vraiment vibré. C'était un kiff.
On y a cru. Tellement dommage, franchement dégoûté.
Ouais, après une finale, ça se gagne. Hein. On retient que les vainqueurs, donc forcément, c'est compliqué. Hein.
Pas bien, et le doublé de Kylian en deux minutes nous remet dans le bain. Les Argentins se taisent et là on se dit vas-y, on met le troisième, Kylian le triplé. Et malheureusement, il n'a pas mis le quadruplé. Non, au vu du tournoi à l'Argentine, moi, je suis pas fan de leur jeu en fait. Un peu brutal, un peu mauvais joueur par moment. Je trouve que la FIFA veut faire gagner Messi à tout prix. Au vu de la finale, c'est pas forcément démérité, mais un peu frustré quand même.
Alors, ce scénario, il a plu aux spectateurs de par le monde. Il y a eu des records d'audience sur la chaîne de télévision française. 23 millions de spectateurs pour ce qui était de la chaîne en libre accès en France et 29 millions en pointe pendant la scène des pénaltys. En tout cas, ce scénario, je ne suis pas sûre qu'il ait véritablement plu à Didier Deschamps.
On revient de nulle part, mais à la limite, au mieux perdre 2 ou 3-0, puis il n'y a rien à dire, l'adversaire est supérieur, ce qui a été le cas, parce qu'on a fait un non-match pendant une heure, et après, avec de la qualité, mais aussi beaucoup de courage, de mental, de renverser une situation qui était très compromise, et ça a continué jusqu'au bout, en ayant cette balle de Coupe du Monde au bout du pied de Colomouani. Et la fin est terrible, elle est cruelle parce que là, on est tombé face à un adversaire qu'on connaissait avec beaucoup de qualité. Je les félicite cette équipe d'Argentine.
Il félicite l'équipe d'Argentine, évidemment, hein, Deschamps qui a tant gagné mais tant perdu aussi. Hervé Penaud, on peut comprendre ce qui s'est passé sur ce non-match des Français. Allez, on va dire jusqu'à la 70e minute, 75e.
Honnêtement, 70e minute. Honnêtement, non, c'est difficilement compréhensible. On voyait tous,
enfin, je veux dire, même les gens qui ne comprennent pas le football voyaient bien que les Français n'avaient pas la balle.
Alors, même au départ, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait l'impression, comme on nous avait parlé de ce virus qui avait atteint l'équipe de France, et dit bah, peut-être que les joueurs sont impactés. Effectivement,
et vous avez une réponse définitive ?
Aucune, puisque la fin de match prouve que ce n'est pas le virus. Donc, non, ça prouve, moi, je pense que c'est
même
mental.
Rabiot, qui était très faible pendant 80 minutes, il a haussé le rythme, il a fait 20 minutes fantastiques avant de sortir.
Non, moi, je crois beaucoup au mental. C'est-à-dire que, vous savez, aborder une finale de ce calibre-là, ce n'est pas simple. Et peut-être qu'il a manqué quelques cadres capables d'apaiser les tensions. Et puis après, bah vous êtes bouffé par l'événement. Mais quand on est bouffé par quelque chose, c'est compliqué parce que vous croyez pouvoir vous en sortir et puis vous êtes incapable de faire ne serait-ce qu'une passe. Même Kylian Mbappé, qui après a dévoré le match, on l'a pas retrouvé, le Kylian Mbappé qu'on connaît.
Il y a quand même des cas particuliers. Prenons Griezmann. Griezmann, il a beaucoup d'expérience. Il a joué des matchs de Ligue des Champions. Il est champion du monde. Et il n'était pas dedans, mais vraiment pas
tétanisé,
dedans.
Moi, j'ai trouvé
il ne voulait pas le ballon. Il y a quelque chose. Alors moi, j'insiste sur la qualité de jeu des Argentins en première mi-temps. Il suffit de voir le deuxième but, c'est extraordinaire.
Il est magnifique, de Di Maria.
Il y a l'émotionnel, là, je suis d'accord avec toi, Hervé, mais quelque part, il y a un mystère pour moi.
Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit, moi, j'ai pas de réponse. Hein.
Vous avez oublié, parce qu'ensuite, on a déroulé, mais vous avez oublié la finale de la Coupe du Monde 2018. En première période, on ne sait pas très bien comment la France mène 2-1 à la fin de la première période, mais ça valait 0-2. C'était pareil. L'équipe de France était complètement éteinte, mais complètement à la rue.
On tire au but quand même.
On a tiré par hasard. Coup franc et un pénalty venu
de nulle part. Non, mais je suis d'accord.
Non, mais franchement, on aurait dû être à 0-2 à la mi-temps. Et il se trouve que donc c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant d'ailleurs. C'est étrange que cette équipe qui avait plus d'expérience que la Croatie en 2018, qui avait plus d'expérience que les joueurs argentins pour la plupart dans ce match-là, c'est étrange que c'est eux qui visiblement ont été bouffés par la pression sur ce match. Visiblement, parce qu'il n'y a pas d'autre explication, étant donné qu'ensuite, il y a eu un regain physique. Certes, il a fait rentrer des colosses, des changements.
Il y a eu des changements entre-temps.
Il a dit, bon, puisqu'on ne sait pas jouer au foot, qu'on n'y arrivera pas, on va mettre de la puissance et on va les embêter. Et de la vitesse. Et il l'a réussi.
Pour terminer, le refrain des Argentins, parce qu'on a beaucoup chanté le refrain des Français, bien sûr. Et là, c'est celui des Argentins, Alejandro Muchachos.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.